On amène à Jésus un aveugle, en le priant de le toucher. Jésus le conduit à l'écart, lui met de la salive sur les yeux et lui impose les mains une première fois. Mais l'homme ne voit que confusément. Alors Jésus met une deuxième fois ses mains sur les yeux de l'aveugle. Celui-ci voit clair, il est guéri. Seigneur, sans ton évangile, nous sommes dans la cécité et la confusion. Nous prêtons attention à ce qui brille, à tout ce qui est haut placé, ce qui fait du bruit. Alors que toi, tu nous invites à retenir ce qui est vrai, ce qui est discret, ce qui est silencieux. Ouvre nos yeux à ta lumière, qu'elle nous aide à faire la différence entre le factice et l'authentique, entre l'urgent et l'important, entre nos pensées et ta volonté, notre argile et ton évangile. Amen. Et je vous invite à chanter le cantique 21-21, les deux premières strophes, page 256, mais il est projeté ici, « Un jour dans tes parvis ». Nous louons Dieu avec le psaume 98. Chantez au Seigneur un chant nouveau, car il a fait des merveilles. Par son bras très saint, par sa main puissante, il s'est assuré la victoire. Le Seigneur a fait connaître sa victoire et révélé sa justice aux nations. Il s'est rappelé sa fidélité, son amour, en faveur de la maison d'Israël. La terre tout entière a vu la victoire de notre Dieu. Acclamez le Seigneur, terre entière. Sonnez, chantez, jouez. Prenez place.
Alors je m'adresse d'abord aux plus petits, parce qu'il y a toujours des plus grands qui répondent trop tôt. Alors voilà, alors s'ils ne répondent pas, vous pourrez répondre ensuite, mais d'abord... Alors je suis sûr que, je suis sûr que vos parents, je la vois, oui. Pas beau de dénoncer comme ça. Je suis sûr que vos parents vous ont dit qu'il y avait des mots importants à connaître. Et pour les adultes, c'est des mots importants à connaître quand on va à l'étranger, dans le pays, il y a quelques mots qu'il est bon de savoir. Qu'est-ce que vous avez comme mots? Ouais.
Bonjour.
Bonjour, c'est un bon début, ouais.
Merci.
Merci. Bon, c'est bien, on arrive là, on voulait lire, mais il y en a d'autres.
Ouais, bien.
S'il vous plaît.
S'il vous plaît d'abord, merci ensuite, ouais, il y en a d'autres. Ouais, vas-y.
Au revoir.
Au revoir.
Ça va avec bonjour, ouais. Voilà, oui, c'est... Déjà, Si vous allez à l'étranger et que vous commencez par parler aux gens dans leur langue, vous verrez qu'ils se détendent tout de suite. Si vous leur dites bonjour plutôt que où est la gare, en plus en français ou en anglais, alors que ce n'est pas leur langue, tout de suite les gens entrent en discussion. Donc c'est les mots importants. Hein. Et vous l'avez dit, mais il y a un mot qu'on dit à vos parents, je suis sûr qu'ils vous ont fait le coup, le mot magique. Il y en a deux en fait. Mais c'est quoi les mots magiques? Il vous a déjà dit. Hein. Ouais, vas-y.
Merci, s'il vous plaît.
Ouais.
Merci, s'il vous plaît, s'il te plaît. Ouais. Être reconnaissant. Alors, vos parents, ils vous sont sorinés avec ça, et peut-être qu'eux-mêmes ne sont pas toujours au point. On oublie aussi les adultes, parfois, de dire s'il te plaît, de dire merci. Pourtant, on peut aussi dire merci, alors vous avez l'habitude, ça aussi, à Dieu. Alors, pourquoi on peut dire merci à Dieu? Par exemple, ce matin. De quoi, pourquoi ce matin vous pourriez remercier Dieu? Oui, vas-y, non, mais tiens.
Vous
n'êtes pas
venu, vous avez mis la main.
Le petit déjeuner?
Oui, pour venir ici. Hein? Pour le petit déjeuner, t'as dit, excuse-moi.
Je n'ai pas compris, moi je suis un peu sourd.
Le petit déjeuner, oui. Le petit déjeuner. Alors, on peut dire merci à Dieu pour le petit déjeuner, mais on peut aussi dire qui a merci à qui pour le petit déjeuner? On peut aussi. Non, on n'empêche pas l'autre.
Ouais. Parce que c'est les parents qui achètent le petit déj.
Ouais. Ah, vous êtes, tu le fais tout seul ton petit déj, je ne sais pas.
Oui, c'est les parents qui l'achètent.
D'accord. Pourquoi d'autre? Alors, le petit déjeuner, très bien. Parce qu'il y a plein de choses pour lesquelles on peut remercier, auxquelles on ne pense pas tellement ça nous paraît normal, évident.
Je ne sais pas comment
expliquer. Pardon. Essaye.
On peut remercier Dieu pour nous réunir dans sa maison.
Oui. Oui. Mais pour, déjà, pour le simple fait d'avoir une famille, d'être vivant, on oublie, ces choses nous sont tellement évidentes, tellement naturelles, qu'on oublie parfois que tout le monde n'en a pas. Et être reconnaissant, ce n'est pas dire que c'est bien fait, ils n'en ont pas, moi je mérite d'en avoir une. Hein. Mais ça veut dire, ben voilà, au lieu de toujours me plaindre, on peut commencer par me plaindre le matin parce que c'est trop tôt, parce qu'il faut aller au catéchisme ou à l'école biblique, on peut commencer par être content d'avoir une famille qui nous y emmène, d'avoir des parents qui se soucient de nous donner l'éducation. Il y a plein de raisons de remercier nos parents, bien sûr, mais aussi Dieu, parce que c'est bien de commencer une journée en étant plutôt dans la gratitude, plutôt que dans la moussabrie, ça n'existe pas, mais enfin, vous voyez ce que je veux dire. Voilà. Eh bien, je vous invite à chanter. Et pendant le psaume, les plus jeunes pourront aller rejoindre leur groupe. Donc, c'est le psaume 138. Psaume 138.
Je viens de ça. Oui. Que vous trouverez éventuellement à la page 154. pouvez vous asseoir. Bienvenue pour ce culte en famille, plutôt que des familles, en fait. Voilà. Souvenez-vous de cet épisode où Jésus est dans le temple à Jérusalem et il enseigne et le peuple écoute. Les religieux veulent le mettre à l'épreuve. Ils amènent une femme surprise en flagrant délit d'adultère. Ils interrogent Jésus. Moïse, dans la Torah, nous a prescrit de lapider de telles femmes. Et toi, qu'en dis-tu ? Jésus se tait. Il se baisse et avec un doigt écrit par terre. Les religieux insistent, ils le harcèlent. Ils espèrent avoir piégé Jésus. Ils demandent une réponse. Jésus se lève et leur déclare que celui d'entre vous qui est sans péché lui jette la première pierre. Je vous invite à chanter « Cherchez d'abord le royaume de Dieu » dans 14:09, page 220. Cherchez le royaume, d'abord le royaume de Dieu. Place. Nous prions. Qui sommes-nous devant toi, Seigneur ? Sommes-nous cette femme écrasée sous la honte, la culpabilité, la faute, le fardeau du péché ? Ou sommes-nous ces religieux enfermés dans leur certitude, prompts à juger ceux qui s'écartent du droit chemin ? Sommes-nous cette femme au cœur lourd comme une pierre, fatiguée de son passé ? Ou sommes-nous ces religieux aux mains pleines de pierres, prêtes à être lancées ? Que nous soyons la femme ou les religieux, tu t'abaisses pour ne pas nous condamner. Tu poses le doigt dans la poussière pour ne pas nous juger. Tu gardes le silence pour ne pas nous rejeter. Que nous soyons la femme ou les religieux, tu nous appelles à nous relever, à dépasser nos culpabilités, à déposer notre vanité. Que nous soyons la femme ou les religieux, nous voici devant toi, dans la vérité de notre vie, dans l'ambiguïté de notre foi, dans les maquis de nos jalousies. Lorsque Jésus renvoie les religieux à leur conscience, ils se retirent un à un. Jésus lève les yeux, il est seul avec la femme. Il l'interroge. « Où sont tes accusateurs ? Personne ne t'a donc condamné ?»« Personne, » répond la femme. « Moi non plus, je ne te condamne pas. Va et ne pêche plus. »« Moi non plus, je ne te condamne pas, » dit Jésus. Face à ce qui te blesse, l'Évangile te redresse. contre ceux qui t'accusent, le pardon est sans mesure. Va et ne pêche plus. Tu peux tout recommencer, tu es libre pour aimer. Maintenant, tu peux partir. L'Évangile est ton avenir. Amen. Mon seul abri, c'est toi, 45-16, page 700. Prenez place. Deux lectures pour ce jour. La première dans le livre, le deuxième livre des Rois, au chapitre 5, les versets 14 à 17, sera lue par Ivan, et le second dans l'Évangile de Luc, chapitre 17, les versets 11 à 19, sera lu par Amélie. Mais d'abord, nous prions. L'Esprit dit à Ézéchiel, « Fils d'homme, écoute ce que je te dis. » Ne sois pas rebelle, ouvre la bouche et mange ce que je vais te donner. Je regardais, une main était tendue vers moi, elle tenait un livre en forme de rouleau. Il me dit, fils d'homme, mange ce rouleau, ensuite tu iras parler à la maison d'Israël. J'ouvris la bouche, il me fit manger le rouleau. Il me dit, fils d'homme, nourris ton ventre et remplis tes entrailles de ce rouleau. Je le mangeai, et il fut de ma bouche, doux comme du miel. Seigneur, parfois ta parole est acide et décapante, parfois elle est douce et apaisante. Que souffle ton esprit sur nous ce matin, et ta parole sera vivante, stimulante, fortifiante. Amen. Ivan, tu es là.
Lentement, fort et articulé. Mets le micro près de toi, voilà.
En ces jours-là, le général syrien Naaman, qui était lépreux, descendit jusqu'à Jourdain et s'y plongea cette fois, pour obéir à la parole d'Élisée, l'homme de Dieu. Alors sa chair redevint semblable à celle d'un petit enfant. Il était purifié. Il retourna chez l'homme de Dieu avec toute son escorte. Il entra, se présenta devant lui et déclara, désormais, je le sais, il n'y a pas d'autre Dieu sur toute la terre que celui d'Israël. Je t'en prie, accepte un présent de ton serviteur. Mais Élisée répondit, par la vie du Seigneur, je sais, je n'accepterai rien. Naaman le pressa d'accepter, mais il refusa. Naaman dit alors, puisque c'est ainsi, permets que ton serviteur emporte de la terre de ce pays autant que deux mulets peuvent en transporter. Car je ne veux plus offrir ni holocauste, ni sacrifice à d'autres dieux qu'au Seigneur Dieu d'Israël.
En ce temps-là, Jésus, marchant vers Jérusalem, traversait la région située entre la Samarie et la Galilée. Comme il entrait dans un village dix lépreux vinrent à sa rencontre. Ils s'arrêtèrent à distance et lui crièrent « Jésus, maître, prends pitié de nous !» À cette vue, Jésus leur dit « Allez vous montrer au prêtre !» En cours de route, ils furent purifiés. L'un d'eux, voyant qu'il était guéri, revint sur ses pas en glorifiant Dieu à pleine voix. Il se jeta face contre terre aux pieds de Jésus en lui rendant grâce. Or, c'était un Samaritain. Alors Jésus prit la parole en disant « Tous les 10 qui n'ont-ils pas été purifiés, les 9 autres, où sont-ils ? Il ne s'est trouvé parmi eux que cet étranger pour revenir sur ses pas et rendre gloire à Dieu. » Jésus leur dit « Relève-toi et va, ta foi t'a sauvé. »
Nous chantons « Souffle, souffle de Dieu », cantique 53-09, page 180, la première strophe. Prenez place. L'un d'eux, voyant qu'il était guéri, revint sur ses pas en glorifiant Dieu à pleine voix. Il se jeta face contre terre aux pieds de Jésus en lui rendant grâce. La gratitude, la reconnaissance, on peut considérer ça comme des vertus, parce qu'à contrario, l'ingratitude est quelque chose d'assez unanimement déploré. Avec nos enfants, nous essayons de leur apprendre les paroles, les rites, les formules de gratitude, le fameux mot magique, en espérant qu'à travers la politesse formelle et le dressage, appelons ça comme ça, viendront la réalité du sentiment. Pour reprendre les paroles du poète, c'est toi, faites semblant de croire et bientôt vous croirez. Nous exigeons de nos enfants, de nos contemporains plus largement, qu'ils soient reconnaissants des efforts que nous faisons envers eux. C'est tout à fait légitime. Mais sommes-nous, nous-mêmes, reconnaissants ? Reconnaissants envers qui ? Envers quoi ? Nous pourrions facilement arriver au sentiment que, finalement, nous n'avons de merci à dire à personne que ce que nous avons et ce que nous sommes devenus. Nous le devons qu'à notre travail, nos talents et nos efforts. Évidemment, si nous prenons le temps d'un peu d'introspection, d'honnêteté, nous arriverons vite à la conclusion que ce n'est pas tout à fait vrai, que nous avons des dettes symboliques envers tant et tant de gens, nos parents, nos professeurs, les différentes personnes qui nous ont permis de devenir qui nous sommes. Nous pouvons aussi, plus ou moins sincèrement, être reconnaissant envers Dieu. Et dans nos prières, nous citons toutes sortes de raisons d'être reconnaissant pour le don de la vie, de son amour, pour sa présence dans nos vies. Mais a-t-on vraiment besoin de raison pour être reconnaissant? A priori, par définition, oui. Mais ce récit nous interroge. Cette histoire du dixième lépreux. Parce que si on lit bien ou on écoute bien cet épisode biblique, on s'aperçoit que finalement Jésus n'a pas fait grand-chose. On peut même remarquer que, respectueusement, conformément à la loi, aux coutumes, les lépreux sont restés à distance. Et pour une fois, Jésus ne s'est pas approché, ne leur a pas fait de signe pour venir à lui. Il ne leur a pas adressé la moindre parole de sympathie ou de pitié. Il ne les a pas touchés. Il ne leur a pas annoncé quelque salut que ce soit. Il les a juste envoyés plus loin. Et les a fait, pour ainsi dire, dégager. Évidemment, je force le trait. Mais on pourrait ressentir cette impression. À cette vue, Jésus leur dit « Allez vous montrer au prêtre ». On a connu Jésus plus empathique. Vous le savez sans doute, un lépreux guéri doit aller se montrer au prêtre qui va l'examiner pour lui donner en quelque sorte un certificat de guérison et le réintégrer ainsi dans la communauté des vivants. Être guéri de la lèpre, c'est une forme de résurrection, sociale tout au moins. Je précise en passant, mais vous le savez sans doute déjà également, que la lèpre dans la Bible désigne une maladie de peau et ne désigne pas la lèpre telle que nous la connaissons aujourd'hui sous ce nom. Maladie qui est arrivée dans nos régions, et même dans les régions bibliques, bien plus tard. Donc, en quelque sorte, Jésus se débarrasse d'eux en leur disant qu'ils sont guéris. Bon, il ne l'exprime pas comme ça. Il les envoie vers les prêtres qui seront à même de constater leur rémission. Il sous-entend qu'ils sont déjà guéris. Et je m'interroge, en lisant ce récit, sur l'état d'esprit de ces dix lépreux. Ils viennent pour recevoir la pitié de Jésus. Je ne sais pas exactement ce qu'ils espéraient. Espéraient-ils une guérison ou s'attendaient-ils à quelques pièces? Rien ne nous est dit. Ce qu'ils reçoivent, c'est d'être traités, non pas comme des malades, mais comme des personnes guéries. Ils obéissent sans broncher, ils acceptent cette réalité sans se poser de questions. Et je pense que je ne suis pas le seul à avoir tiqué en entendant que l'un d'entre eux, voyant qu'il était guéri, revint sur ses pas. La formule est troublante. Elle laisserait d'abord entendre que seul un des lépreux se rend compte qu'il est guéri. Mais on peut aussi entendre, et on va dire que c'est plus probable, qu'un seul d'entre eux, après avoir constaté qu'il était guéri, a fait demi-tour. On peut imaginer toutefois que certains vont machinalement se présenter au prêtre sans se rendre compte qu'ils sont guéris. Ils ont besoin que quelqu'un d'autre les renseigne sur leur guérison, incapables qu'ils sont de comprendre par eux-mêmes le changement pourtant essentiel arrivé dans leur vie. Mais comme le sujet du jour, c'est la reconnaissance, on va laisser les neuf continuer leur retour à la normalité, pour peu qu'on considère que la bonne santé soit la norme. Pour nous concentrer sur notre dixième guéri, on ne peut plus les appeler lépreux à ce stade du récit. C'est d'ailleurs à ce moment que nous apprenons que c'est un Samaritain, c'est-à-dire un étranger. Un étranger au territoire, un voisin, mais un voisin mal aimé, parce qu'il est aussi étranger à la foi juive. Ou plutôt c'est, si vous me permettez ce mot anachronique, un hérétique, un mal-pensant de la foi, le tenant d'une branche séparée du judaïsme. Ne tenant comme valide que les cinq premiers livres de la Bible, la Torah, et non les suivants qu'il considère comme des ajouts de tradition, et se dispensant d'ailleurs aussi d'un certain nombre de pratiques. Il pourrait être considéré avec beaucoup d'approximation et un peu d'humour comme les protestants du judaïsme. Pour information, et on passe en une fois de plus, il existe encore aujourd'hui des Samaritains. Ils ne sont pas très nombreux, mais c'est une foi, une religion qui persiste et demeure. Donc cette précision sur le côté samaritain, sur l'origine samaritaine du dixième, vient à point nommé, car elle change la lecture du récit pour nous éloigner d'une interprétation qui opposerait les bien élevés aux mal éduqués, aux impolis, les reconnaissants aux ingrats. Elle introduit une autre nuance, ouvre une autre piste de réflexion. Le samaritain, en effet, n'a aucune raison d'aller voir un prêtre puisqu'il ne reconnaît pas sa fonction sacrée et sociale. Encore un point de commun avec les protestants. Il est donc libre de revenir vers la source de sa guérison. On peut trouver surprenant que Jésus stigmatise les 9 premiers alors qu'ils ne font qu'obéir à la tradition, certes, mais également à l'ordre que Jésus leur a donné. Le Samaritain, lui, n'obéit pas à la tradition. C'est normal, parce que ce n'est pas la sienne. Mais désobéit également à l'injonction pourtant claire de Jésus. Mais injonction qui, pour lui, est sans objet. On peut très bien imaginer que c'est justement sa non-soumission aux règles et aux habitudes qui lui permet de percevoir cette guérison et d'en reconnaître la source pourtant difficile à discerner. Oui, Jésus n'a rien fait. Ce serait ni la première ni la dernière critique de l'Évangile vis-à-vis d'une pratique religieuse déconnectée de ses fondements. Suivre les codes, respecter les traditions, pratiquer les rites ne sont pas des choses mauvaises ou négatives en elles-mêmes. Mais les faire de manière automatique nous fait passer à côté de l'essentiel, l'agir de Dieu dans nos vies. Notre Samaritain a su discerner dans sa vie l'effet d'une rencontre avec Jésus, tandis que ses compagnons, voulant pourtant bien faire, manquent leur rendez-vous. Le Samaritain, quant à lui, exprime sa gratitude envers Dieu de façon bruyante et manifeste sa reconnaissance vis-à-vis de Jésus d'une manière qui peut nous sembler excessive, voire gênante. C'est néanmoins à ce moment que Jésus prononce cette parole essentielle « Relève-toi et va, ta foi t'a sauvé ». Cette parole, placée là, à cet endroit, nous fait comprendre quelque chose de fondamental. Le salut dans cette histoire ne dépend pas de la guérison, mais de la louange et de la reconnaissance. C'est lorsque l'ancien lépreux prend conscience de sa guérison et en reconnaît la source en Dieu et l'agent en Jésus-Christ qu'il accède à la vie véritable, au salut. L'intervention de Dieu dans nos vies, aussi discrète ou manifeste soit-elle, n'a pas pour but de nous faire retourner à une grise routine, à une triste normalité, mais de nous ouvrir à la reconnaissance, à la gratitude, à l'ouverture. Dans le récit de ce jour, sans préjuger d'évolution ultérieure des personnages, mais si les 10 lépreux ont été guéris, ou ont été purifiés, pour reprendre les mots de Jésus, un seul a été sauvé. Un seul a perçu la présence du royaume de Dieu. Serons-nous comme lui ? Serons-nous comme lui discerner l'action de Dieu et, la proximité de son royaume ? Serons-nous comme lui témoigner de notre reconnaissance ? Admettons que nous soyons capables d'une telle lucidité, d'un tel courage. Comment pouvons-nous témoigner de cette reconnaissance ? Je ne me vois pas personnellement glorifier Dieu dans la rue à pleine voix ou me jeter face contre terre devant Jésus, ce qui est historiquement un peu difficile, reconnaissons-le. Comment puis-je témoigner de cette reconnaissance ? Je reviens ici sur le passage, l'extrait du livre des Rois, qui parle de Naaman, l'ex-lépreux lui aussi, qui veut témoigner de sa reconnaissance envers le prophète. Sa proposition de cadeau est refusée par Élisée, peut-être parce que trop facile, trop évidente, trop commode. Il ne se décourage pas, il va insister, puis il va témoigner de sa reconnaissance différemment. Et au lieu de persister dans son idée de don, il va demander à recevoir. Recevoir un peu de terre d'Israël, de la terre devenue pour lui sacrée parce qu'elle lui rappelle sa guérison. Il emmène avec lui quelque chose qui, en soi, ontologiquement, comme on dit grossièrement, n'a aucune valeur, un peu de terre, mais qui en a pris beaucoup pour lui, parce qu'elle lui rappellera sa rencontre avec le Seigneur. Elle sera pour lui un mémorial, le poussant, jour après jour, à la gratitude. La reconnaissance envers Dieu n'a pas une forme spécifique et définie. Pourtant, elle doit être manifestée d'une façon ou d'une autre. Nous sommes invités, encouragés à la manifester à notre manière. Quelle est notre situation ? Quels sont les dons que nous avons reçus ? Quelles occasions d'engagement et de témoignage s'offrent à nous ? Sans aucun doute, nous avons des occasions et des moyens de vivre dans la reconnaissance. À nous d'ouvrir les yeux et de faire nôtre cette parole. L'un d'eux, voyant qu'il était guéri, revint sur ses pas en glorifiant Dieu à pleine voix. Il se jeta face contre terre aux pieds de Jésus en lui rendant grâce. Libre de nos chaînes, Cantique 52, 17, page 858. Libre de nos chaînes. Nous restons debout pour la confession de la foi que nous disons ensemble. Dieu Père, je crois en toi, je m'attache à toi qui me crée et me fait naître sans cesse, qui dépose l'amour en moi sans condition, sans te lasser. Je te crois capable de l'impossible, me réconcilier avec moi-même, avec toi et avec les autres, au-delà des échecs, des conflits, des ombres, des tristesses, pour me faire éclore à la responsabilité. Christ, mon frère, je crois en toi qui me fais confiance sans douter, qui touche en moi ce qui est de l'humain, la quête de soi, la fragilité, la joie, le besoin d'être aimé. Je te crois capable de l'impossible, me permettre de me dépasser par-delà les barrières, les préjugés, les résistances, les compromis, me permettre au-delà de la croix de renouer avec la vie de Dieu. Esprit Saint, je t'appelle, toi la force de Dieu, le souffle de Dieu pour raviver la vie en nous, pour faire des croyants une communauté en mouvement. Esprit Saint, je crois en toi, qui me lie à Dieu, signe de vérité, brûlure d'amour, force de Dieu au jour le jour, force de Dieu au dernier jour. Amen. Nous sommes en, Cantique 36-28, 520, page 527, nous sommes en. Prenez place. Seigneur, Merci pour tout ce que tu nous donnes et merci aussi pour la joie d'offrir. C'est maintenant le temps du don, le moment de l'offrande. Vous voulez payer par carte, vous faites signe à Pierre. Seigneur, nous te présentons notre offrande. Accepte-la comme un signe, parmi d'autres, de notre reconnaissance. Amen. Pierre, si tu veux bien. Ah, il a perdu son papier. Voilà. Ça me rassure, il n'y a pas que moi qui perds mes affaires, c'est bien.
Excusez-moi, bonjour à tous. Merci de votre présence à chacun ici. Merci à Guillaume qui est au rétroprojecteur.
Au vidéoprojecteur, il faut que tu y passes. Hein,
au vidéoprojecteur. À Claude Françoise qui est à l'orgue ce matin. Merci à elle. Et ça va peut-être pour dire que le culte d'offrande qui sera le 2 novembre sera autour de... de l'orgue, voilà, donc, si vous voulez.
Sera... Oui. Enfin, symboliquement autour de l'orgue, on ne va pas se mettre autour de l'orgue.
Oui, oui, voilà. Merci à David et à Pierry qui vous ont accueillis ce matin, à Vincent pour le culte, et merci à Daniel et Barbara, je suppose, oui. pour les fleurs. Voilà. Cette semaine, simplement pour vous dire que hier soir, il y a le groupe de jeunes et le groupe Parole et Partage qui étaient réunis. Donc un petit message du groupe Pas Parole et Par Sage. Ils ont fait une soirée jeu qui était très sympathique. Et la prochaine fois, ils refont une soirée jeu. Cette semaine...
Projection d'un film.
Bon, excusez-moi. Cette semaine, donc, il me semble que lundi, mardi. Il y avait quelque chose.
Alors, mardi.
Mardi, il y a la prière à 7h le matin. Et la prière aussi vous est proposée mercredi à 18h. Mardi, il y a également la chorale à 19h15. Et voilà.
Mercredi CP.
Mercredi, il y a aussi le conseil presbytéral le soir.
Jeudi,
il y a l'étude biblique à 20h. Vendredi, il y a le groupe de
l'élection divina.
Voilà, de l'élection divina, le partage de la parole œcuménique à 18h. 18h30. Voilà. Et qu'est-ce que j'oublie ?
À dimanche prochain, culte avec l'aumônier des hôpitaux.
Dimanche prochain, voilà.
Et début des vacances.
Et puis aussi, samedi, il y a le cercle de silence à 18h. Voilà. Et puis, cette semaine, nous avons appris deux décès. Donc, le décès de Henri von Bergen. Et cette nuit, il y a eu aussi le décès de Pierre Hay. Voilà.
Oui, alors j'ai eu son épouse ce matin au téléphone. Et ça a été très paisible. Il s'est endormi dans la paix. Il est entouré. Son épouse était à ses côtés. Et si j'ai bien compris, mais bon, au téléphone, je crois que leur fille aînée également était là. On n'a pas encore les dates d'une quelconque cérémonie. On n'a pas encore été contacté par les pompes funèbres.
Bon, ben, on pense surtout à son épouse, voilà. Je reviens sur le 2 novembre. Donc, le culte du 2 novembre, ce sera le culte d'offrande de novembre. Et l'idée est de faire un culte très musical autour de l'orgue. Donc, il y aura Mathieu à l'orgue. L'idée aussi de passer un bon moment ensemble, mais aussi de récolter des sous pour la rénovation de l'orgue. Parce que comme Claude Françoise a parfaitement joué aujourd'hui, vous entendez toute la richesse des sons et comme cet orgue sonne, que ce soit dans les pianos, dans les aigus, dans les fortés, dans les graves. Et donc l'idée aussi de récolter des sous pour cette rénovation qu'on a faite de l'orgue en début d'année. Donc n'hésitez pas à inviter vos amis choristes, vos amis musiciens, plein d'autres personnes pour venir aussi ce dimanche 2 novembre. Il y aura un moment de partage le matin avec aussi un petit café et l'après-midi et juste après aussi le verre de l'amitié. Donc l'idée est de faire venir beaucoup de monde pour entendre cet orgue sonner et comme on a le plaisir de l'entendre depuis plusieurs mois.
Alors ceux qui ont une bonne mémoire se souviendront qu'on a déjà eu un réveil de l'orgue, mais c'est comme pour Louis XIV, il y a un petit réveil et un grand réveil. Là, ce sera le grand. Juste aussi à la sortie du culte, on a prévu un temps de rencontre avec les parents du catéchisme et de l'école biblique. Donc ce sera dans la salle où sont actuellement les enfants du jardin biblique.
Comme j'ai retrouvé mon papier, simplement pour vous dire qu'à la sortie du culte, il y a deux propositions de concerts, un pour demain soir... carte blanche au professeur du CPAM et puis ce soir oui et puis la messe du Gloria de Puccini le vendredi 17 à Annecy église Sainte Bernadette et dimanche dernier nous avions le groupe A4 il y a deux jeunes qui sont venus parler au micro et qui ont mis une affiche dans les divers c'est pour la création d'une bande dessinée sur les invisibles. Donc voilà, si vous, ça vous intéresse, vous pouvez voir l'affiche.
Et dernière info, le jour du Seigneur et Présence protestante sur France 2 font chaque année une émission commune sur une ville qui s'appelle Sur les traces ou Sur les pas de Jésus-Christ. Et ils présentent une ville sur tous ses aspects, notamment chrétiens. Et la prochaine émission sera sur Annecy. Donc, si vous avez des suggestions, dire tiens, il ne faudrait pas qu'ils ratent ça, faites-les moi savoir et je transmettrai. Ils ont déjà bien avancé, mais peut-être qu'ils n'ont pas pensé à tout. Je vous invite à la prière d'intercession. Notre Père qui es aux cieux, toi qui nous donnes aujourd'hui notre pain, tourne nos regards et nos cœurs vers ceux qui dans le monde n'ont ni pain, ni maison, ni justice, ni espoir. Pardonne-nous notre volonté insatiable de ne manquer de rien, alors que tant d'êtres humains manquent de tout. Aide-nous à vivre simplement, à dominer nos besoins factices et nos dépenses exagérées, pour pouvoir partager et aimer davantage. Ainsi, nous serons frères et sœurs. Nous offrerons avec toi pour que ton règne vienne dans le monde, pour que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Et c'est ainsi, poussé par ton esprit, que nous reprenons ces paroles. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Je t'ai fait la réflexion, est-ce que c'est vraiment la peine de projeter le texte du Notre Père ? Et un jour, des parents m'ont expliqué qu'ils avaient aperçu que leur enfant, on dit, c'est une famille où on disait beaucoup, voilà, et disait, comme nous pardonnons aussi à tous ceux, à ceux qui nous ont tant fessés. Donc peut-être que voir le texte écrit correctement n'est pas forcément un mal. Voilà. Je vous invite à vous lever pour recevoir la bénédiction. Seigneur, Dieu de justice et de paix, aide-nous à marteler nos épées pour en faire des socs et nos lances pour en faire des serpes. Conduis-nous du doute à la foi, de la mort à la résurrection. Transforme notre désespoir en espérance et conduis-nous de la crainte à la confiance. Encourage-nous à prier, à travailler ensemble, à rire et à pleurer, à donner et à recevoir, à rêver et à œuvrer. Que nos cœurs, le monde et l'univers soient remplis de ton amour, de ta paix, de ton pardon et de ta bénédiction. Que le Dieu d'amour et de la consolation, de la grâce et du pardon vous bénisse et vous garde. Allez dans la paix de Dieu, il est le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Que la grâce de Dieu soit sur toi. Cantique 62-81, page 1005. Dimanche à tous.